France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and Inverhausen.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Sofas, changer de radio.
France Inter, le 18-20. Christelle Rebière.
Il a vanté le redressement historique de l'Amérique. Donald Trump, hier, a fait le service après-vente de son bilan économique. On va revenir sur son discours sur l'état de la nation et rétablir quelques vérités. Le géant de l'IA anthropique doit-il être utilisé pour faire la guerre? C'est la question que posera Frédéric Saïs dans Le Monde à l'endroit. Le reportage nous emmène ce soir en Cisjordanie, truffée de checkpoints israéliens, ces points de contrôle que les Palestiniens redoutent.
Le soldat n'avait aucune raison de faire tout exploser. Je lui ai dit de faire comme il voulait. De toute façon, c'est comme ça que les Israéliens agissent depuis toujours avec les Palestiniens. Nous ne sommes pour eux que des terroristes et des détenteurs d'armes.
Des rencontres faites par Alice Moreno et que l'on va réécouter. Nous irons au Japon, dans Sous les radars, la tension monte avec Pékin. Tandis qu'au Royaume-Uni, on polémique autour d'un trésor spolié au Ghana. Et juste avant 19h dans Écrire le Monde, Ilana Mor-Youssef nous emmènera après le carnaval de Venise explorer la flore local à travers un livre japonais. Voilà, vous avez le programme de vol. Il est temps de faire une première escale.
Inflation is plummeting. Incomes are rising fast.
L'inflation est en chute libre, les revenus progressent vite, l'économie est plus rugissante que jamais. C'était hier soir. Dans son discours sur l'état de l'Union, Donald Trump ne boudait pas les superlatifs sur l'efficacité de sa politique économique. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Quel est son réel bilan depuis son retour à la Maison-Blanche? Il y a un an, il disait que le Golden Age, l'âge d'or, était à portée de main. Cette fois, l'économie rugit. Alors il a égrené des statistiques favorables, baisse de l'inflation, baisse des coûts de l'emprunt immobilier. Quant aux droits de douane, il en a imposé d'autres destinés, selon lui, à remplacer à terme carrément l'impôt sur le revenu. Bonsoir Gilles Mouek.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef économiste du groupe AXA. Donald Trump a vanté un redressement historique. Au-delà du choix des mots, on connaît sa rhétorique. Vous avez suivi son discours. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors je ne sais pas si on peut parler d'une croissance rugissante, on peut parler d'une croissance robuste, décente. Si on regarde les chiffres, en 2025, ça a été assez chahuté, mais en moyenne annuelle, on a une croissance du PIB de 2,2%. Mmh. En général, on estime que le potentiel ou la tendance de la croissance américaine, c'est aux alentours de 1,7, 1,8, donc un peu au-dessus du potentiel. Rien de particulièrement stellaire, mais surtout une situation dans laquelle, finalement, la moyenne ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, on a un très grand déséquilibre l'intérieur de cette croissance américaine.
Elle repose sur quoi, au fond, cette croissance américaine ?
Elle repose énormément sur la tech. L'investissement dans le matériel informatique et dans les logiciels, c'est à peu près un tiers de la croissance du PIB américain en 2025. C'est quand même un chiffre énorme. En fait, on peut s'amuser à faire quelques comparaisons. Si on enlevait l'investissement en haute technologie aux États-Unis, on aurait en fait à peu près la même croissance du PIB que dans la zone euro dans son ensemble.
D'accord.
Donc voilà, rien de stellaire. Et ça permet de comprendre pourquoi on a un tel divorce entre des chiffres macro qui effectivement sont décents, plutôt robustes, et une perception des ménages aux États-Unis qui est une perception plutôt négative, parce qu'en fait, pour ceux qui ne travaillent pas dans la tech, pour ceux qui n'en bénéficient pas directement, la croissance est finalement assez médiocre.
Mais bon, le grand sujet, on va y venir maintenant, c'est l'inflation. L'inflation chute, a dit Donald Trump hier soir. En janvier, les prix à la consommation ont progressé de 2,4% sur un an. On ne peut pas dire que ce soit une chute non plus.
Alors, il y a un ralentissement de l'inflation par rapport au pic que l'on a connu lors du mandat précédent, mais on a quand même une résistance à la baisse de l'inflation. Si on s'intéresse à l'indice des prix que la Banque centrale américaine préfère regarder, son indice favori, c'est l'indice, le déflateur sous-jacent de la consommation privée, désolé de la technique. Mmh. On est à 3% glissement annuel au mois de décembre 2025, donc on est encore un point de pourcentage au-dessus de l'objectif que poursuit la Banque centrale et qu'elle considère comme étant cohérent avec la stabilité des prix. Donc l'inflation n'est pas galopante. Elle reste toutefois suffisamment charnue pour qu'elle vienne s'ajouter à une inflation passée déjà très forte et qu'elle contribue en fait à cette perception, encore une fois, assez dégradée de la situation par les ménages américains.
Donald Trump a été élu sur cette promesse l'inflation. Il devait redistribuer du pouvoir d'achat en ponctionnant l'argent des droits de douane. Il devait financer un gros chèque, on se souvient, de 2 000 $ aux Américains, sauf évidemment aux plus riches. Il n'en a même pas reparlé hier soir.
Alors, les tarifs ont été payés par les entreprises.
C'est ce qu'on appelle les droits de douane.
Pardon, les droits de douane ont été payés par les entreprises et les ménages américains. Il n'y a rien de nouveau, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et on a une preuve très simple qui est que quand on regarde les prix d'importation aux États-Unis, les prix d'importation sont mesurés avant impact des droits de douane. Et il n'y a pas eu de baisse de ces prix d'importation, ce qui veut bien dire que les exportateurs vers les États-Unis n'ont pas cherché du tout à réduire leurs marges, n'ont pas cherché à compenser en fait ces tarifs. C'est bien payé aux États-Unis, soit par les entreprises, et ça c'est pris dans leurs marges, soit par les ménages, parce qu'on a quand même eu cette résistance dans l'inflation. Encore une fois, elle n'est pas galopante, mais elle résiste. Alors il ne faut pas surestimer l'impact que les tarifs ont eu sur la croissance américaine, mais on est plutôt dans une situation, encore une fois, dans l'économie traditionnelle, là où on n'est pas dans la tech, là où on subit un peu de plein fouet l'impact de ces tarifs, eh bien la situation est effectivement assez médiocre.
Et qu'est-ce qu'on en fait de ces 142 milliards de dollars qui ont été récoltés par les taxes douanières d'après les estimations du Budget Lab de Yale, 142 milliards. Ils ont permis en fait de financer une partie des baisses d'impôts, mais qui concernerait surtout les plus aisés.
En fait, ce qui
c'est pas très redistributif.
C'est pas très redistributif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le budget 2025, ce qui a été finalement voté à l'été dernier, dans les difficultés d'ailleurs, est un budget qui essentiellement fixe ou rend permanent des baisses d'impôts qui avaient déjà été consenties par l'administration, la première administration Trump, et qui devaient normalement venir à expiration. Et en fait, en termes de surcroît de baisses d'impôts, si vous voulez, en fait, le delta, la différence, a été assez faible. C'est surtout la prolongation en fait, de baisses d'impôts qui avait déjà eu lieu. Et encore une fois, ça veut dire que l'effet net de cette politique budgétaire, qui effectivement reste très expansive, eh bien, elle n'est pas perçue comme étant si favorable à la croissance, parce que finalement, elle n'ajoute pas grand-chose à la situation telle qu'elle était connue par les ménages et entreprises américains avant le retour au pouvoir de Donald Trump.
Pour en revenir à l'inflation, on se souvient des discours des économistes qui prédisaient une forte inflation avec la hausse des tarifs douaniers. Finalement, ce n'est pas catastrophique, ça veut dire qu'ils se sont trompés. Ou ça veut dire qu'on va s'en rendre compte plus tard?
Alors, ce n'est pas catastrophique, cela étant, on a quand même un impact. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, si on s'intéresse à l'indice des prix favori de la Fed, on est un point au-dessus de l'objectif. Et je pense qu'en grande partie, ce décalage par rapport à l'objectif s'explique par les tarifs. Mais par ailleurs, on a eu des forces qui ont joué à la baisse sur l'inflation, dont on n'avait pas nécessairement conscience au moment de l'annonce de ces tarifs. Et là où il y a eu, c'est vrai, une certaine réussite de l'administration Trump, ça a été sur la maîtrise des prix de l'énergie, en tout cas sur la maîtrise des prix de l'essence, parce qu'on a eu plutôt une baisse des cours du pétrole. On verra ce qu'il en sera dans les semaines qui viennent, si la tension s'accentue avec l'Iran. Mais en tout cas, pour l'instant, on a plutôt eu des prix du pétrole à la baisse, et ça a permis quand même de compenser une partie de l'effet des tarifs.
Et hier soir, Donald Trump a dit que les droits de douane allaient remplacer en grande partie l'impôt sur le revenu. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'on est sur la même échelle de valeur, en fait?
Alors, les masses ne le permettent pas. C'est-à-dire que sur la base des tarifs que l'on avait avant la décision de la Cour suprême, sur 10 ans, on avait à peu près 10 points de PIB de gains pour le budget fédéral sur 10 ans. Et ça, c'est pas du tout à la hauteur des recettes fiscales générales. Mais ça, en fait, c'est intéressant parce que c'est la nostalgie, en fait, de ce qu'a été le système fiscal américain au 19e siècle. Le système fiscal américain était fondé sur la perception de droits de douane, d'ailleurs assez charnu. Et c'est souvent dans l'imaginaire américain la coïncidence, en fait, de l'abaissement des droits de douane au 20e siècle avec la montée de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est en fait, ça touche une corde assez sensible, en tout cas historique, aux États-Unis.
Bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Christelle.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant de France Inter à Washington. L'inflation, le pouvoir d'achat, le logement, c'est la préoccupation majeure des Américains. Qu'est-ce qu'ils disent de Trump ?
D'abord, vous savez, on en fait vite l'expérience aux États-Unis. Il est rare qu'un Américain soit satisfait du coût de la vie et donc de l'administration Trump dans ce domaine. Globalement, les électeurs démocrates vous disent que Donald Trump est un menteur, que les prix n'ont pas baissé, ce qui est en grande partie vrai. Et les républicains, eux, demandent qu'on lui laisse du temps. Ils estiment qu'on ne peut pas tout régler en un an. Mais le pouvoir d'achat est en effet la préoccupation principale des Américains. Bien souvent, on l'évoquait en économie, la perception, c'est la réalité. Or, les Américains ne voient pas les prix baisser depuis que Trump est de retour à la Maison-Blanche. Certains aliments, comme les œufs, coûtent un peu moins cher qu'il y a un ou deux ans. L'essence aussi est plutôt en baisse. Mais les prix de la viande, en particulier le bœuf, atteignent des records. L'électricité coûte cher. Voilà, l'inflation, contrairement à ce que dit Trump, n'a pas chuté. Elle a ralenti, comme le disait votre invité, et la hausse des prix n'est pas encore jugulée.
Et les changements de pied constants de Trump, ça les inquiète ?
Les changements de pied sur les droits de douane, notamment, ont inquiété les Américains. Vous le savez, l'incertitude ne favorise pas l'investissement. Et de ce point de vue, la réaction de Trump à la décision de la Cour suprême qui a retoqué ses droits de douane n'est pas de nature à rassurer les investisseurs. Oui. Il veut les rétablir, pour le moment à 10 voire 15% pour une période de 150 jours. Il n'y a donc pas de perspective à plus long terme. Et puis dans l'ensemble, les Américains ont surtout le sentiment que Donald Trump nie le problème du pouvoir d'achat. Il ne s'occupe pas assez d'économie. Il passe trop de temps sur les affaires internationales, notamment. Ses conseillers lui ont demandé de se concentrer sur le portefeuille des Américains. Trump a fait des efforts dernièrement pour aller à la rencontre des électeurs, vanter son bilan économique en meeting. Mais hier, par exemple, dans son discours, il n'a fait aucune proposition pour les 3 années à venir. Et tous les sondages le montrent, Christelle, les Américains font de moins en moins confiance à Trump sur l'économie. Ils sont 60% à estimer que les États-Unis se portent moins bien aujourd'hui qu'au début du second mandat.
Pourquoi n'a-t-il fait aucune proposition, à votre avis, Gilles Mouek, hier soir, Donald Trump ?
Je pense qu'il... D'abord, on commence à toucher à certaines limites institutionnelles qui tiennent à son contrôle, en fait, du Congrès. On a vu depuis quelques semaines un certain nombre de votes se passer très difficilement pour l'administration américaine. On a trouvé, par exemple, une majorité à la Chambre des représentants pour voter contre les droits de douane à imposer au Canada. Une partie suffisante des représentants républicains ont voté avec les démocrates. Et en fait, si l'administration souhaitait aller plus loin dans l'expansion budgétaire, ce qui serait une solution pour apporter un peu de soutien au pouvoir d'achat, il n'est pas évident qu'il trouverait une majorité. Il ne faut jamais oublier que le projet de budget 2025 a été voté au final par une seule voix de majorité. On s'approche des élections de mi-mandat, il n'est pas évident qu'on trouvera beaucoup de représentants républicains pour soutenir une politique expansive.
Alors, dernière question rapidement. Un an, évidemment, c'est court pour faire un bilan, mais tout de même, dans quel état est l'économie américaine, en quelques mots, pour conclure ?
L'économie américaine va quand même bien. Comme je l'ai dit, on a une croissance qui est supérieure au potentiel. Elle est déséquilibrée, elle est inégale, mais elle est là. On a toujours la promesse des nouvelles technologies, il ne faut pas la nier. On en verra les effets, peut-être, en tout cas, sur la productivité intrinsèque dans les années qui viennent. Là où il y a une vraie question de fond, c'est l'emploi. L'emploi stagne depuis maintenant le début de 2025. Et c'est sans doute là, en fait, que le vrai test sera fait.
Merci Gilles Mouek, merci d'être passé par Un jour dans le monde. Je rappelle que vous êtes chef économiste du groupe AXA. La suite, c'est Le Monde à l'endroit avec vous, Frédéric Saïs.
L'intelligence artificielle est-elle un soldat comme les autres ?
Et ce sera juste après ça.
Here's my white feather hawk-tailed deer hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer. Likes to push me on the screen, John Deere mower. I know you wish you had a man like him, it's such a bummer. When I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow. In the dark, snap, crackle, pop. Positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather hawk-tailed deer.
the stove and yeah, dinner's almost done. Whoopsie daisy, you, I imagine you do know how absolutely wonderful that you are. He's my white feather hawktail, dear hun. Before I met him, wore a bow over 3 summers. Now it's a ribbon round my neck and it's cherry color. I just been baking, waiting on a spirit hunter. I got a nicotine patch for the summer. Yeah, I'm a ghost, doesn't mean I feel nothing. Put it on my ass, no tan line summer. I love my daddy, of course we're still together. Everyone knows I had some trouble, but it's been 3 summers. I know it's strange to see me cooking for my husband, but it's positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather octail dear to her. Take my hand off the stove, hun. Yeah, dinner's almost done. Whoopsie daisy, you, I imagine you do know how absolutely bad I'm with an oven.
Lana Del Rey et l'envoûtant White Feather Hawktail Deer Hunter, sorti il y a quelques jours et déjà dans la playlist de France Inter. Un extrait de son album à suivre, Le Monde à l'endroit.
How dare you?
The world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Aux États-Unis, Frédéric Saïs, le ministre de la Guerre veut mettre l'intelligence artificielle au pas.
Oui, l'IA est déjà utilisée sur les champs de bataille, mais jusqu'ici, elle est un soldat trop timoré, trop scrupuleux, pas assez fougueux, en tout cas au goût de Peter Hegseth. Peter Hegseth, c'est le ministre de la Défense, rebaptisé ministre de la Guerre par Donald Trump. Il estime que certaines sociétés d'intelligence artificielle s'encombrent trop de questions éthiques, de précautions morales. Ce ministre vient en fait de lancer un ultimatum à l'un des géants de l'IA, la société Anthropique, d'ici ce vendredi, dans 2 jours, elle doit renoncer à tous ses garde-fous en matière militaire. Jusqu'ici, Anthropique a refusé que sa technologie soit utilisée pour la surveillance de masse des Américains. Elle refuse aussi que ses modèles soient incorporés à des armes autonomes, c'est-à-dire des armes qui peuvent prendre la décision de tuer sans aucune supervision humaine. Ce sont en quelque sorte des garde-fous éthiques.
Alors pourquoi ces garde-fous déplaisent-ils autant l'administration Trump ?
Eh bien, le ministre de la Guerre ne veut aucune contrainte, je cite, en dehors de la loi. Traduction, la course à l'armement doit se faire au rythme, Christelle, de l'innovation, de l'efficacité et non pas des principes, encore moins du principe de précaution. Alors si Anthropique refuse de céder à l'ultimatum, l'entreprise sera placée sur liste rouge, elle sera privée de contrat avec les administrations américaines. Il faut lire la note du Pentagone publiée le 9 janvier dernier. Elle détaille la stratégie d'utilisation de l'IA dans le domaine militaire et vous lirez la phrase suivante qui en dit long, fini l'idéalisme utopique, place au réalisme froid. Alors c'est une manière de critiquer en creux les choix de l'administration Biden, la précédente, jugée trop prudent, trop tatillon sur les questions morales. D'ailleurs, l'un des premiers gestes, souvenez-vous, de Donald Trump à son retour à la Maison Blanche, ça a été de déchirer les régulations sur l'IA de l'époque Biden. Mais le ministre de la Guerre parviendra-t-il à faire plier Anthropique ? Rien n'est moins sûr, car cette société, valorisée 300 milliards de dollars tout de même, a justement bâti sa réputation sur son souci de l'éthique. Son PDG, Dario Amodei, est un ancien de chez OpenAI, l'un des pairs de ChatGPT, mais justement, il a claqué la porte de cette société qui, selon lui, privilégiait trop les bénéfices à la prudence. Lors de la présidentielle aux États-Unis, il a aussi soutenu la démocrate Kamala Harris, et c'est l'un des rares dirigeants américains de la tech qui a snobé la cérémonie d'investiture de Donald Trump.
Mais ces questionnements entre l'IA et la défense vont bien au-delà des États-Unis.
Oui, ce serait trop facile d'en faire un cas qui est circonscrit à Donald Trump. Toutes les armées du monde sont confrontées à ces questionnements. Jusqu'où déléguer la capacité d'analyse à l'intelligence artificielle ? Jusqu'où lui offrir un pouvoir de conseil, voire un pouvoir de décision létal ? Des chercheurs du King's College à Londres viennent de publier les résultats d'une expérience. Ils ont mis au point des jeux de simulation de conflits et ils ont demandé aux principaux modèles d'intelligence artificielle de prendre toutes les décisions. Les options allaient de simples protestations diplomatiques jusqu'à l'escalade militaire. Eh bien, dans 95% des cas, le conflit s'est terminé par un affrontement nucléaire. Voilà pourquoi la question n'est pas anodine. Veut-on des IA avec des garde-fous ou des IA au garde-à-vous ?
Et on n'a pas fini d'en parler. Merci Frédéric. Le reportage d'un jour dans le monde ce soir est en Cisjordanie où la circulation est un défi quotidien. 900 checkpoints dans un territoire deux fois plus petit que l'Île-de-France. 900 points de contrôle tenus par l'armée israélienne où les Palestiniens patientent en espérant être autorisés à circuler. Temps perdu, rendez-vous manqué, comportement déplacé, agression perpétrée parfois par les soldats israéliens sur ces points stratégiques. Humiliation régulière, des Palestiniens ont accepté de se confier à Alice Moreno.
Dans un café du centre-ville de Ramallah, Sarah tire une grande bouffée de tabac à chicha. C'est la fin de la journée, l'heure est à la détente, mais chaque matin, elle se réveille avec la même angoisse.
La première question que je me pose le matin, c'est de savoir si les checkpoints sont ouverts.
Elle consulte chaque jour les boucles de messagerie WhatsApp ou Telegram où les automobilistes palestiniens partagent l'état des checkpoints, ouverts, fermés, saturés, selon le bon vouloir de l'armée israélienne qui les contrôle.
En plus du temps perdu, de l'attente et des retards, les soldats veulent surtout montrer qu'ils ont le contrôle sur nos vies. Ils n'ont pas juste le contrôle sur notre temps, mais veulent nous envoyer un message. Ils disent « Nous avons le contrôle sur votre liberté. Quand tu rentres, quand tu sors, c'est nous qui décidons. »
Taher, 34 ans, raconte l'ascendant des soldats sur les Palestiniens. Il est aussi l'un des rares à oser mentionner les abus de pouvoir qui se traduisent parfois par des agressions physiques.
Il y a trois semaines, un checkpoint près de Naplouse, ils m'ont contrôlé. Ont vu que mon frère était mort en martyr, que j'étais moi-même un ancien prisonnier, et aujourd'hui un journaliste. Ils ont vu rouge, m'ont fait sortir de la voiture, emmené dans une salle pour me fouiller et m'ont frappé à plusieurs reprises dans les parties génitales. Un soldat a serré très fort mes testicules. C'était tellement humiliant. Je ne pouvais rien faire.
Il sait que son statut d'ancien prisonnier devenu journaliste attise l'animosité des soldats, un profil qui n'a toutefois rien d'exceptionnel. Selon plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, entre 800 000 et 1 million de Palestiniens ont été détenus dans les prisons israéliennes ces dernières décennies. C'est donc une part importante de la population. Au checkpoint, Taher dénonce un problème bien plus large que son seul cas.
Ce n'est pas parce que je suis journaliste, seulement parce que je suis palestinien. Et cela même avant le 7 octobre et la montée de la violence. Nous sommes menacés en premier lieu car nous sommes palestiniens.
Désormais, il envisage chaque trajet avec angoisse.
C'est une angoisse extrême. Dès que je sais que je dois quitter Ramallah pour le travail, je me demande quel checkpoint emprunter et comment me comporter avec les soldats. De manière générale, c'est vraiment une grosse pression.
Un stress permanent que partage Asma, une jeune Palestinienne de Jérusalem, qui passe régulièrement le checkpoint de Qalandia, le plus important de Cisjordanie.
Les soldats hommes essayent d'utiliser leur pouvoir pour humilier les femmes en particulier. Ça m'est arrivé. Une fois, je traversais le checkpoint et un soldat m'a sifflé. Une autre fois, je présentais ma pièce d'identité quand le soldat a décidé de me faire un clin d'œil et se mordre la lèvre. Puis, il s'est mis à rire avec un autre soldat. Et moi, je ne peux rien faire.
Énième humiliation, aux abords des points de contrôle, les colons israéliens ont tagué un message que l'on retrouve un peu partout sur les routes de Cisjordanie.
À chaque checkpoint, ils ont écrit « la Mostakbal », ce qui signifie « pas de futur » en arabe, pour qu'on abandonne.
De son côté, l'armée israélienne assure qu'elle est prête à mener des enquêtes si des comportements inappropriés de soldats lui sont signalés.
checkpoint en Cisjordanie, le harcèlement au quotidien, signé Alice Moreno. Rediffusion d'un reportage réalisé en septembre dernier. Pour aller jusqu'à 19h, l'actualité qui a failli passer sous les radars mais qui ne vous a pas échappé, Guillaume Audin.
Ou comment Narendra Modi tisse sa toile d'influence planétaire. Le Premier ministre indien multiplie les partenariats. Il est ce soir juste à côté de la Palestine, en Israël, et je vous dis pourquoi.
Et Ilana Mor-Youssef, écrire le monde.
On va cueillir des plantes à Venise.
Ah, ça nous fait envie. Pour l'instant, on fait une escale à Chypre avec le Monsieur Domani. Ils sont trois en fait. Et ce titre, à la Vrostisiotis, sorti il y a 5 ans. Bon début de soirée sur France Inter. Monsieur Doumani à la Vrostisiotis, la fusion entre musique traditionnelle avec une pointe de rock sous les radars. L'annonce choc du ministre de la Défense japonais Guillaume, Tokyo va déployer des missiles non loin de Taïwan.
Des missiles sol-air sur l'île de Yonanugi qui fait partie de l'archipel japonais. On est à 100 km à peine de Taïwan. Ils seront déployés ces missiles d'ici à 2030, le temps de préparer la base militaire qui les accueillera. Des armes capables d'abattre des avions, des drones et toutes sortes de vecteurs aériens qui viendraient d'où ? De Chine, évidemment, qui ne cache plus, vous le savez, sa volonté d'envahir l'île de Taïwan. Alors cette annonce choc, comme vous le disiez, Christelle, du ministre de la Défense japonais, elle vient crisper plus encore qu'elle ne l'était les relations entre Pékin et Tokyo. Rien ne va plus diplomatiquement entre ces deux-là, et notamment depuis que la nouvelle première ministre du Japon, Sanae Takashi, a fait de Taïwan un enjeu de sécurité nippon. Il faudra suivre avec attention la réaction de la Chine, qui ne restera certainement pas les bras croisés au risque d'accroître plus encore la tension militaire en Asie-Pacifique.
מדברים על המפית ועל הבגד, כן, על הצבע, על הצבע של שרה והבגדים של שרה עם המפית.
Narendra Modi accueilli en grande pompe par Benjamin Netanyahu, début ce mercredi d'une visite d'État de deux jours du Premier ministre indien en Israël.
Et c'est à croire qu'en ce moment, tout le monde se dispute les faveurs de Narendra Modi ces derniers jours. Le Brésil, on en parlait hier à ce micro, il y a quelques semaines, Emmanuel Macron en visite à New Delhi, le même Modi qui signe une pleine page aujourd'hui dans l'opinion, qui fait l'objet ce mercredi également d'une enquête très complète dans le Financial Times, au moment où en effet, le Premier ministre israélien lui déroule le tapis rouge. Alors il faut dire qu'en Israël, l'homme fort du nationalisme hindou est en terrain conquis, un ancrage très très à droite, comme Benjamin Netanyahou, qui cherche à renforcer les liens de son pays avec New Delhi. Tout cela dans un contexte régional brûlant. Le monde a les yeux tournés sur l'Iran, l'Inde également, qui veut approfondir, oui, sa coopération militaire avec l'État hébreu, tout en prenant garde à ne pas froisser le sud global et le monde arabo-musulman. En Israël, Narendra Modi façonne ce qu'on appelle désormais le multi-alignement.
Looting of items, precious items belonging to people.
Voilà une controverse qui agite le Ghana et le Royaume-Uni. La Royal Artillery conserve ses butins coloniaux bien à l'abri de la curiosité des chercheurs et du grand public.
Comme s'il fallait les cacher, ces butins, pour ne pas les rendre. C'est un ancien correspondant de la BBC qui s'en est indigné. Il a couvert pendant 10 ans l'Afrique australe avant de devenir auteur et chercheur reconnu. Il documente entre autres les pillages de biens culturels par son pays, sur le continent noir. Il travaille sur les processus de restitution assez difficiles, il faut le dire. Pour preuve, cette extraordinaire reproduction d'une tête de bélier en or massif dérobée il y a 150 ans par Londres à l'Empire Ashanti, devenu le Ghana aujourd'hui. Un artefact de la taille d'un petit melon en or massif, un petit melon en or massif dont Barnaby Phillips, c'est son nom, a découvert l'existence. Il a demandé à la Royal Artillery qu'il possède de pouvoir l'étudier. Réponse de la British Army, no way, cet objet reste à sa place tout au fond du mess des officiers pour d'obscures raisons de sécurité. Alors qu'en réalité, ce trésor est bien plus qu'un simple trophée, c'est un insigne de souveraineté chargé de sacré, nous dit l'ancien journaliste, qui soulève une question politique qui nous concerne, nous aussi, les Français. À qui appartient l'histoire et qui a encore le droit de la garder sous clé? Vous avez 4 heures.
Eh ben, j'allais vous le dire, 4 heures. Merci Guillaume Oda.
France Inter. Un jour dans le monde.
Écrire le monde, Ilana Mor-Youssef, votre voyage littéraire du mercredi. L'air commence à sentir le printemps, avouons que ça fait du bien. Alors on a des envies d'ailleurs. La semaine dernière se tenait le carnaval de Venise. Faute de pouvoir y aller, vous vous êtes plongée, Ilana, dans le nouveau roman de Ryoko Sekiguchi, Venise, mille fleurs, une exploration de Venise à travers sa flore.
Ce titre à lui seul, Venise, mille fleurs, fait très envie. Et j'étais intriguée depuis longtemps par l'autrice Ryoko Sekiguchi. Elle est japonaise, elle vit en France depuis 28 ans. Elle travaille depuis un certain temps sur les cinq sens. Et elle a publié notamment L'appel des odeurs. Premier fait étonnant, Ryoko Sekiguchi écrit à la fois en français et en japonais. Et ça va bien avec le thème du carnaval. On pourrait dire qu'elle porte un masque, et même deux, qui lui permettent tout à la fois de se dévoiler et de se dissimuler.
J'écris à la fois dans les deux langues, et aussi on peut dire que je suis deux autrices différentes, parce que j'ai deux personnalités littéraires différentes. C'est une situation assez schizophrénique, il faut dire. Quand j'écris en japonais, j'ai tendance à utiliser des tournures qui sont différentes. Concrètement, il m'arrive d'écrire avec plus de conditionnel. Il me semblerait que j'ai l'impression que je suis moins frontale en japonais, je pense. Et en français, bon, bien sûr, c'est comme ça. Je pense comme ça. Et ça, c'est vrai que de pouvoir avoir les deux personnalités me plaisent énormément.
Alors, après le livre qu'elle a écrit sur Beyrouth, c'était il y a 3-4 ans à peu près, Ryoko Sekiguchi se demandait quelle ville pourrait l'inspirer suffisamment.
Et c'est comme ça qu'elle a décidé d'écrire sur Venise ?
Alors, pas tout à fait. Elle a un peu résisté. Tous les écrivains, se disait-elle, ont déjà écrit sur Venise. C'est comme faire une thèse sur Proust. Alors, c'est l'expression qu'elle a employée. Je n'ai personnellement jamais fait de thèse sur Proust. Donc, elle s'est dit, mais à quoi bon ajouter un livre de plus ? Mais l'idée continuait de lui trotter dans la tête. Et là, sans très, très bien savoir où elle allait, elle s'est dit qu'elle allait s'intéresser à un thème peu veut exploiter la flore vénitienne. Le début de l'aventure ressemble vraiment à un roman. Une amie vénitienne lui suggère d'aller voir son père. Cet homme est architecte, il vit dans une belle demeure traditionnelle, il possède de nombreux ouvrages sur Venise, mais surtout, il lui montre un herbier confectionné par l'une de ses aïeules, Ilaria. Et là, c'est le déclic. Ryoko Sekiguchi se dit qu'elle tient le fil de son roman. Le père de son ami lui propose alors de lui confier cet herbier.
Ma fille m'a parlé de votre grand intérêt pour notre herbier, alors j'ai fait quelques recherches. Celle qui a fabriqué l'herbier est très probablement cette femme.
Il pointa du doigt le nom d'une femme liée au seul nom de ses parents.
Comme vous pouvez le constater, elle ne s'est pas mariée et n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas de descendant direct.
C'est alors qu'il me fit une proposition qui me surprit.
Pour moi et pour le reste de la famille, elle n'était rien de plus qu'un nom. Je ne sais même pas combien de membres de ma famille savent qu'une telle femme a existé. Et pour ne rien vous cacher, votre enthousiasme pour ce document m'intéresse personnellement. Je suis curieux de savoir ce que vous allez écrire sur sa vie, vous qui n'êtes pas de cette ville, mais à la fois japonaise et parisienne. Évidemment, vous êtes toujours la bienvenue à la maison. Mais sachez que vous pourrez aussi garder l'herbier avec vous pendant votre travail d'écriture, plutôt que de prendre la peine de vous déplacer souvent chez nous. J'ai confiance en vous, en tant qu'autrice et amie de ma fille. Par ailleurs, l'herbier ne doit avoir aucune valeur, si ce n'est qu'il appartient personnellement à notre famille.
Merci à Mao Dubutler et Adrien Serrière pour leur lecture. Alors, que va-t-il se passer avec l'herbier d'Ilaria ?
Eh bien, il sera un peu comme un fil d'Ariane dans le roman, car l'herbier, ce ne sont pas juste des plantes séchées, collées et légendées. Ilaria, morte au XIXe siècle, je le rappelle, y a aussi écrit de brefs textes. Et Ryoko Sekiguchi entame une correspondance avec elle. Plus exactement, elle lui adresse des lettres. Pour elle, écrire, c'est écouter les voix venues d'ailleurs. Quelquefois, ces voix sont vivantes, d'autres fois, elles appartiennent à un autre temps.
Je voulais avoir des contacts indirects, bien sûr, imaginaires, bien sûr, avec l'autrice de l'herbier. J'ai pris cette décision lorsque j'ai compris qu'elle est là comme une sorte de représentante de plein d'autres femmes qui ont vécu dans cette ville. Il y avait aussi les photos de femmes qui étaient internées dans l'hôpital psychiatrique de Saint-Clément à la fin du 19e siècle. Et donc, à travers cette présence d'Ilaria, je voulais aussi faire parvenir plein de voix d'un autre temps et relier aux voix des femmes d'aujourd'hui, des Vénitiennes d'aujourd'hui, et de faire converser.
Alors c'est l'une des beautés de ce texte, ce fil tissé entre les disparues et les contemporaines. Elles ont en commun, bien souvent, le lien qu'elles entretiennent avec les plantes. On apprend ainsi, au fil des explorations botaniques de l'autrice, que les femmes détenues aujourd'hui à la prison de la Giudecca cultivent des légumes que l'on peut acheter au marché du Rialto, qu'il y a même aux alentours de Venise des viticulteurs, des apiculteurs. Et ces légumes, ce vin, ce miel ont le goût de la lagune. Car Venise, ce n'est pas seulement, comme on pourrait le croire, une ville-musée asphyxiée par le tourisme de masse et menacée par les eaux. C'est une ville vivante. Si on regarde à ses pieds, on voit des herbes poussées entre les pavés. Si on la regardait du ciel, on verrait des tas d'îlots verts, jardins paysagers, jardins potagers. Venise mille fleurs en est le manifeste, un manuel de survie, dit l'autrice, face au risque que fait courir à la ville le changement climatique, et j'ajouterai un compagnon de route pour nos voyages à Venise, réels ou imaginaires.
Et ça réveille aussi nos sens. Merci Lana. Notre tour du monde s'achève là ce soir. La suite, c'est le journal de 19h présenté par Sarah Mansoura. Puis le téléphone sonne. Bonsoir Flore Catala.
Bonsoir à tous.
Rédactrice en chef du 18-20 ce soir, et on chasse les Pokémon à l'occasion de leur 30e anniversaire.
Et oui, avec des témoignages de petits et grands ce soir. Morgane à Aix-les-Bains. Nous, on y jouait quand on était enfant, et maintenant ce sont nos enfants qui y jouent. Le plus jeune est imbattable sur tous les noms. Mon Pokémon préféré, c'est Caiminus, nous dit Mathia, 14 ans, depuis Marseille. Caiminus est un petit crocodile bleu aux grands yeux rouges. C'est le Pokémon préféré de Mathia parce que ses évolutions sont incroyables, nous dit-il, et surtout parce qu'il est mignon. Et puis il y a Marie, maman d'un garçon de 7 ans, à Lyon. Elle pousse un coup de gueule ce soir parce que son fils va chercher des cartes Pokémon au tabac, mais dès que les buralistes sortent les présents, les adultes collectionneurs embarquent tout, ce qui empêche un petit garçon avec son argent de poche d'acheter ses cartes.
Quelle folie ! 01 45 24 7000 au standard, même numéro sur WhatsApp.